Michel Baillet vous présente les rendez-vous des colibris.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous avec Écolibri. Aujourd'hui, nous recevons Madame Claire Marc. Merci Claire.
Merci à vous.
D'avoir répondu à notre invitation. Vous avez accepté de nous rejoindre pour présenter l'ouvrage dont vous êtes co-autrice, ayant pour titre « Tout comprendre, ou presque, sur le climat ». Avant d'aborder la présentation de cet ouvrage, nos auditeurs seraient sans doute heureux de mieux vous connaître. Pouvez-vous, Claire, satisfaire un peu, seulement, leur curiosité ? Car je crois, vous avez une origine et des liens familiaux très proches de nous.
Oui, en effet, j'ai grandi à Carpentras. J'ai été jusqu'au lycée à Carpentras. Et en faisant un petit crochet par Monteux en primaire et collège. Et retour à Carpentras au lycée. Et puis ensuite, je suis partie, j'ai mis les voiles sur Marseille pour faire un master d'océanographie. Et à l'issue de ce master, je me suis rendu compte que je ne voulais pas spécialement faire chercheuse. Et c'était la seule issue de ce master. Donc j'ai commencé à m'intéresser à comment expliquer ce que je voyais en cours, qui était un peu préoccupant, surtout sur les questions environnementales. Comment expliquer ça autour de moi, sachant que dès que j'en parlais à mes proches, je voyais que je les perdais. Je n'avais pas le bon jargon. C'était trop technique, trop compliqué. Donc j'ai décidé de m'orienter sur un master de médiation scientifique pour expliquer les sciences au grand public. Et de là, c'était un master en communication scientifique sur l'environnement en particulier, donc spécialisé là-dessus.
Donc très bien, donc ça signifie que déjà vous aviez pris la mesure d'une nécessité de travailler sur le côté communication et médiation.
Tout à fait, oui.
Et à l'issue de votre formation universitaire, je crois que vous vous êtes engagé alors pour répondre à cette observation à une orientation plus professionnelle.
Oui.
Quelle est-elle ?
Ouais, tout de suite après mes études, j'ai monté mon agence de communication scientifique, Médus Communication, donc sur Marseille, et ça va faire 3 ans maintenant. Et justement pour répondre aux besoins des scientifiques qui ont un jargon trop technique pour vulgariser leurs travaux auprès du grand public. Mais moi, j'ai toujours une petite passion pour l'environnement. Donc les sujets sont souvent là-dedans. C'est sciences et vie de la Terre et environnement, particulièrement.
Ça veut dire que vous aviez quand même une facilité, une compétence personnelle à travers votre formation universitaire pour rejoindre les scientifiques et pour leur dire « me voilà ».
Exactement.
Je vous apporte la possibilité d'être votre voix, d'être le moyen de vulgariser, c'est toujours nécessaire auprès du grand public, et de mieux expliquer ce que vous nous apportez.
Oui, tout à fait. Ils ont confiance, puisqu'ils voient que j'ai un parcours scientifique, que je comprends leurs termes et leur jargon technique, qu'eux utilisent au quotidien. Donc pour eux, c'est normal de parler comme ça, mais ça l'est beaucoup moins pour le grand public. Donc c'est sûr qu'ils font confiance à mon parcours, et c'est toujours agréable de parler la même langue.
Est-ce que l'accueil des scientifiques a été aisé ? Parce que je pense que ce sont quand même des personnes de laboratoire, des personnes aussi de grande nécessité de rectitude, hein, etc., intellectuelle. Et tout à coup, hop, on va communiquer. Les médias, tout ça, comment reçoivent-ils cela ?
Alors, il y a 2 écoles, je dirais, enfin peut-être 3. Il y en a qui s'en fichent un peu, qui sont dans cette case-là. Il y a ceux qui ne pensent pas que la communication au grand public soit nécessaire et que la recherche doit rester dans les laboratoires. Mais c'est vraiment une toute petite école, une toute petite case. Tous les autres sont globalement très contents quand on parle de ce qu'ils font. Quand on parle de ce qu'ils font avec les mots du grand public, c'est-à-dire qu'eux ne sont pas en mesure de le faire tout le temps. Alors par contre, il y a des scientifiques qui sont très forts pour communiquer eux-mêmes, ça pour le coup, qui sont très présents sur les réseaux sociaux. Et voilà.
J'entends bien ce que vous dites, je vous interromps, pardon, mais si vous saviez combien de fois je me suis senti très intelligent en écoutant un scientifique évoquer la discipline dans laquelle il exerce avec un grand intérêt et me jeter sur le livre sur lequel il s'appuyait pour pouvoir prolonger ce moment de grand plaisir intellectuel, hélas. Lorsque ensuite je tournais les pages de l'ouvrage, je me disais, mon Dieu, en fin de compte, tu as beaucoup de modestie encore à avoir.
Bah, ils sont quand même très marginaux, ceux qui arrivent à parler de leurs recherches très simplement pour le grand public. Généralement, ils sont très contents quand il y a des médiateurs scientifiques en face, parce qu'ils sont un peu démunis face à l'explication, puisque eux baignent vraiment tous les jours dans ce vocabulaire, dans ces recherches-là. Ils ont les résultats en tête. Et pour eux, ce n'est pas forcément naturel de descendre d'un cran, je dirais, pour rendre accessibles ces données-là, dans un langage commun, je dirais.
Ils craignent d'être mal compris, les Français.
Voilà, ils le craignent et ils le sont. Donc ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que quand ils vont essayer, ils vont être confrontés à un manque de compréhension de la part du public. Donc ça va un peu les inhiber dans le fait de reproduire ces expériences-là.
C'est un intervenant radio qui vous parle aujourd'hui, mais je pense aussi donc d'un petit média local, mais très important. Mais je pense qu'ils ont aussi la réserve par rapport à la tentative du buzz de la part des médias, non ?
Oui, tout à fait. Ben, notamment sur les questions environnementales, tout ce qui est climat, le GIEC est assez, désolée pour le terme, mais ils sont blindés par rapport à ça. Ils ne s'autorisent que très peu de communication. C'est généralement ultra contrôlé. Nous, quand on a parlé du livre, par moment, c'était « Ah, mais vous dites que votre livre synthétise le GIEC, est une mini-synthèse », alors que ça ne prétend pas du tout être une synthèse du GIEC, hein, ça n'est pas ça. Mais beaucoup de gens nous ont dit « Ah, mais vous dites que le GIEC est trop long, que c'est trop compliqué à comprendre, que votre livre, machin, vous essayez de le vendre. » Donc on s'est heurté à pas mal de choses comme ça. Oui, bien sûr, ils ont peur du buzz, du bad buzz notamment, parce que c'est l'organisme le plus sérieux sur la question, et que s'attaquer au GIEC, ce serait décrédibiliser leurs travaux, alors que c'est un peu l'unique source vraiment fiable d'informations sur le sujet. Donc si on commence à dire n'importe quoi sur leurs recherches, ça va les déstabiliser, ça va les rendre fragiles. Et le GIEC est déjà extrêmement fragile parce que beaucoup de climato-sceptiques l'attaquent. Donc ça devient compliqué à gérer. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu frileux, mais des initiatives comme celle du livre que j'ai coécrit, elles sont extrêmement contrôlées par le GIEC. Ils ont un droit de regard dessus, plusieurs scientifiques vont le contrôler. Il a été préfacé par Valérie Masson-Delmotte, qui était quand même membre du GIEC, donc membre éminent du GIEC. donc voilà, oui, et peur du bad buzz, bien évidemment.
J'allais évoquer justement cette présence de Valérie Masson-Delmotte. Ça veut dire que vous avez quand même, pour votre ouvrage, un parrainage prestigieux.
Oui, on a une grande chance.
Madame Varessy-Delmotte, avant de se consacrer à votre projet de réalisation de cet ouvrage, c'est elle qui formait le gouvernement sur les questions environnementales.
Tout à fait, oui, donc, grande dame.
Entre autres. Hein. Et puis aussi, je crois, Jean-François Doucin, qui est le directeur adjoint CNRS et de l'Institut national des sciences de l'univers. Mm-hmm. C'est aussi quelqu'un. Donc, votre enfant est porté sur les fonds, on va dire, médiatiques et pédagogiques avec des parrains prestigieux. Donc, nous voilà tout naturellement, je crois, maintenant engagés sur l'étude un peu plus approfondie du projet de votre ouvrage. Alors, dites-nous, cet enfant, d'où vient-il et comment est-il né ?
Alors, il est né des scientifiques du GIEC, certains scientifiques du GIEC qui sont venus trouver notamment l'Institut national des sciences de l'univers, puisque il y a 10 instituts au CNRS qui vont couvrir toutes les disciplines scientifiques, mathématiques, chimie, archéologie, biologie, etc. Et donc celui-ci, l'INSU, couvre le climat. C'est celui qui s'occupe du climat. Donc naturellement, les scientifiques du GIEC se sont tournés vers eux et notamment vers la chargée de communication de cet institut, donc qui est Anne Bress, ma co-autrice, pour lui dire, écoute, là, ça ne va pas du tout. On est à 6 mois de la sortie du rapport du GIEC de 2021, en août 2021. Donc là, ils l'ont contacté en janvier pour lui dire que ça n'allait pas, parce que quoi qu'on tape sur le climat, donc CO2, gaz à effet de serre, émissions, ou même météo et climat, c'était des sites climato-sceptiques qui arrivaient en premier dans les barres de recherche de tous les moteurs de recherche qui existaient, quoi. Eux étaient paniqués de voir que l'accueil de leur rapport serait dans un climat, sans faire de mauvais jeu de mots, très, très négatif à cause de tout ce climato-scepticisme ambiant. Donc, ils ont demandé à Anne Bresse de réfléchir à un format qui pourrait, sur Internet notamment, chasser un peu ces mauvais résultats qui arrivent en premier et mettre des sources d'informations solides et valides.
C'est là qu'arrive votre pote.
Voilà, c'est là que bon pote arrive.
Si je peux dire.
C'est ça. Qui en est devenu un, bien sûr.
dites-nous qui est bon pote.
Alors, bon pote, c'est un blogueur climat. Donc maintenant, qui a commencé avec un site internet, donc son site Bon Pote, et qui petit à petit est devenu un média sur le climat et les questions environnementales et sociétales que le climat implique.
Donc, il a beaucoup de visiteurs.
Il a énormément de visiteurs. Ah, il est très connu dans les sphères environnement, enfin tout ce qui est militantisme.
Une analyse a été faite sur les visiteurs, une étude un peu de savoir, est-ce qu'on peut savoir qui consulte son site ?
Alors, c'est surtout des écolos, hein, on va pas se mentir. Il ne va pas attirer de climato-sceptiques. Il attire des climato-sceptiques, mais pour les. Enfin, voilà, pour essayer de. Ils essayent de démontrer par A plus B ce qui ne marche pas du tout, hein, qu'il dit n'importe quoi. Enfin, bon, c'est. Voilà. Des clashs sur les réseaux sociaux entre lui, les climato-sceptiques.
Pas de violence ?
Si, souvent. Si. Il a même reçu des menaces de mort en message privé. Enfin, ça va assez loin.
C'est insensé.
Globalement. Et en fait, il est assez connu pour afficher les industriels, les médias qui font mal leur travail, ou les climato-sceptiques qui sont quand même dans des sphères connues, qui passent à la télé.
Bien sûr.
Il fait un gros travail de dénonciation, si on peut dire, de ces gens-là sur les réseaux. Il va un peu les prendre à partie. Donc, c'est comme ça qu'il est connu. Et en fait, à côté de ça, il fait quand même un travail très détaillé sur la vulgarisation des rapports du GIEC, ce que les scientifiques veulent dire. Il travaille étroitement avec les scientifiques pour élaborer des articles sur des sujets comme les sécheresses, les canicules, expliquer un peu... Au jour le jour, puisque c'est un média, donc c'est un peu l'actualité, cet été, il a beaucoup parlé des sécheresses, et toujours en relation avec les scientifiques.
Très bien, écoutez, Claire, nous venons d'apprendre quelles sont les conditions dans lesquelles l'ouvrage qui nous rassemble aujourd'hui a trouvé naissance. Je vous propose de respirer pendant une petite phase musicale, et nous allons reprendre pour mieux découvrir ce bel enfant.
Très bien.
Rebel man, try to be your.
Écoutez les rendez-vous des Colibris avec Michel Baillet.
Claire, au moment où nous allons approfondir votre ouvrage, je voudrais citer le professeur donc Jean-François Doucet, qui, je crois, en fonction de ce que vous nous avez dit précédemment, illustre tout à fait votre projet, puisqu'il écrit dans la préface de votre livre, celui-ci est donc le résultat de la rencontre de la communication et de la science. Je crois que c'était vraiment ce qui vous a motivé.
Alors, moi j'étais très motivée par le projet, mais c'est vrai que c'est Anne qui a eu l'idée d'articuler, de faire intervenir Bonpote pour la couverture médiatique que ces articles fourniraient. Écrit avec des scientifiques, relus par le GIEC, etc. Et ensuite, elle a pensé à moi pour la synthèse graphique et visuelle pour que ça parle à un plus grand nombre. Mais effectivement, c'est tout le but de l'ouvrage, de faire rencontrer la science, la communication, le grand public.
D'accord.
C'est, voilà.
Alors, ce qui est intéressant, je me suis attardé une seconde, c'est sur le « presque ».
Oui.
Est-ce que c'est un excès de modestie ? Ou c'est simplement très scientifique de dire ben, on n'a pas encore tout compris et tout découvert concernant le climat?
Alors il y a ça, on n'a pas tout compris encore. Effectivement, il y a cette notion que la science évolue en permanence. Mais il y a aussi cette notion qu'on ne peut pas prétendre avec un ouvrage de moins de 200 pages de répondre à toutes les interrogations des gens, que le climat c'est une vaste question, qu'on aborde 20 questions dans l'ouvrage, mais qu'il y en a bien plus que ça. Donc voilà, c'était aussi pour ne pas prendre cette prétention, avoir cette prétention de répondre à toutes les questions des gens. Voilà.
Et en ayant recours, on le constate en découvrant votre livre, à 27 scientifiques différents,
oui,
qui interviennent sur le sujet du climat.
Tout à fait.
Donc je pense que ça a nécessité, pour la rédaction du livre, d'abord la forme originale. Vous dites-nous un mot,
ah oui,
sur cette forme. Eh oui, quand
oui,
même,
c'était pas
ça
du
n'est
tout,
pas banal.
Exactement, c'était pas du tout destiné à être un livre à la base, comme je le disais. C'était simplement des articles dessinés qui devaient remplacer les articles climato-sceptiques sur les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, etc. Donc c'est là que la forme graphique intervient, puisque c'était pour donner envie aux gens, cliquer dessus, regarder, se dire « tiens, ça change un peu comme format, je vais essayer de comprendre » et les attirer vers quelque chose vers lequel ils ne seraient pas allés avec un texte, tout simplement, tel que Bonpote les écrit, en fait. Donc, donc moi, ma synthèse graphique était basée sur ces articles à lui, donc c'était vraiment moi le dernier maillon de la chaîne qui arrivait pour un petit coup de pinceau, pour que les gens aient un peu envie de mettre un pied là-dedans.
Donc toutes les illustrations sont de votre fait.
Oui, tout.
Bravo.
Merci.
Non, parce que c'est très dense, hein, le livre, en fin de compte, c'est vrai que c'est une forme graphique, mais il y a une grande densité d'informations et de nécessité de réflexion à sa lecture. Et là,
mais c'est là que c'est impressionnant, c'est quand on voit l'objet final, puisque au départ, c'était des planches plus longues que larges qu'il fallait faire défiler sur une page web. Donc la lecture se faisait, donc ça, dans le jargon ça s'appelle un webtoon, c'est un format qui vient de Corée du Sud. Ils lisent beaucoup de bandes dessinées, mais en faisant défiler sur leur écran, puisque tout est numérique là-bas, pratiquement ils n'ont presque pas de livres en papier. Donc on s'est un peu inspiré de ce format-là que moi j'utilisais déjà et qui plaisait beaucoup à Anne. Donc chaque question a été abordée sous la forme d'une planche qui était disponible sur Internet, gratuitement. Et elles le sont toujours, hein, pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir le livre, pour les écoles, les associations qui pourraient avoir besoin de cette ressource-là. On a tenu à ce qu'elle reste gratuite et disponible pour tout le monde. Donc c'est sous forme de planche, par contre. Et c'est une fois qu'on a eu à peu près 12 questions abordées, que Anne a eu l'idée de contacter CNRS Éditions, qui est la maison d'édition propre au CNRS, qui publie des chercheurs.
Préciser ce qu'est le CNRS.
Le CNRS, c'est le Centre National de la Recherche Scientifique. Voilà. c'est une des plus grandes institutions publiques de la recherche en France.
Et donc, qui est présent sur Marseille.
Oui, voilà. Ils ont plusieurs laboratoires. D'accord. Oui. Tout à fait. Bah, partout en France, en fait, toutes les grandes villes et même dans des petites provinces, il y a des laboratoires, notamment près de la côte, des stations marines pour étudier, faire les prélèvements.
Je pense que c'est nécessaire de le préciser.
Tout à fait.
Dans la masse d'informations très diverses et bien souvent confuses que reçoit le citoyen lambda, CNRS, pouf.
Oui, bon, non, mais hein, c'est vrai.
Acronyme, là, ben voilà.
C'est vrai que comme moi, je travaille beaucoup avec eux, je finis par faire comme les scientifiques et avoir mon jargon.
Bien sûr.
Et on oublie le grand public, désolé.
Eh ben, vous savez, nous disons RTVFM, alors qu'il faudrait dire Radio Territoire Ventoux.
Exactement, les acronymes nous perdront. donc du coup, elle a eu l'idée.
Du plan du livre, voilà.
Exactement, elle a eu l'idée de contacter CNRS Éditions pour voir ce qu'ils en pensaient. Ils ont été très enthousiastes à l'idée de publier ce projet-là. Donc, ils nous ont demandé de compléter pour faire 20 questions, parce que 12, c'était un peu... Nous, on était très frustrés de s'arrêter à 12, parce qu'au départ, on s'était dit 12 avec les chercheurs. On avait déterminé 12 questions. Mais en fait, on était très, très frustrés. Très frustrés, il y en avait encore plein à aborder. Et même là, 20, on n'était pas encore satisfaits. On s'est dit, on pourrait encore... CNRS Édition nous a dit non, on va en faire 20. Parce que 20, c'est pratique, ça se lit facilement, ça se lit vite, on ne va pas faire plus. Déjà, attirer les gens sur ce terrain-là, ça ne va pas être chose aisée, donc on va essayer d'y aller tranquillement.
je vous entends là, parce que je vous disais il y a un instant, la lecture de votre ouvrage, qui est passionnante, mais nécessite quand même une rigueur d'approche de chaque planche. Les conséquences, les liens établis entre les diverses connaissances scientifiques élaborées sur chaque planche. Donc, y a eu beaucoup de rigueur, les 20 questions. Dans chaque question, comment avez-vous envisagé, justement, de faciliter pour le lecteur la présentation de chacune de ces questions?
Alors, votre question, elle est à double réponse pour moi, parce qu'il y a la forme du chapitre, comment est-ce qu'ils sont constitués chacun. Ils ont un peu tous la même trame. Mais il y a aussi l'étape de création de ces chapitres. Donc, je vais commencer par cet aspect-là, avec d'abord Bonpote qui écrivait les articles, qui étaient relus par les scientifiques. Donc, il y avait déjà une première validation. Et ensuite, moi, on me donnait les articles relus. Enfin, relus par les chercheurs, validés, la version finale. Je les épurais, parce que c'était des articles d'une vingtaine de pages. Et là, dans le livre, un chapitre égale 5 pages. Donc, il fallait que je fasse une synthèse graphique, donc des dessins du texte condensés à partir d'un article d'une vingtaine de pages. Et ensuite, mon travail était relu, encore une fois, par les scientifiques spécialistes de ces questions-là. Donc, quand vous disiez qu'il y a 27 scientifiques qui ont contribué à la relecture, la vérification de tout ce qu'on raconte, c'est qu'en fait, il y a en moyenne un à deux, voire trois chercheurs qui travaillaient sur chaque chapitre. Parce qu'un spécialiste de la sécheresse n'est pas le même spécialiste des glaciers. Donc, il fallait vraiment qu'on ait une expertise là-dessus et que cet objet, ce livre et ces planches qu'on allait donner au grand public de manière gratuite et à grande échelle, il fallait que ce soit irréprochable. Que les climato-sceptiques ne puissent avoir aucune prise sur ce qu'on racontait.
Crédibilité de votre travail.
Absolument, c'était fondamental. Donc c'est pour ça que dans le processus, il y a eu une vérification à plusieurs niveaux. Et une fois que le livre a été terminé, Valérie Masson-Delmotte l'a relu. Enfin bon, on a eu des retours d'experts du GIEC. Donc voilà, c'était de A à Z, ça a été un long processus de validation, vérification, qui a été assez lourd, mais qui était complètement nécessaire. Et la deuxième partie de votre question, c'est la structure de chaque chapitre. On a essayé de faire en sorte d'avoir une petite introduction à la question. Donc, par exemple, pour météo et climat, comment ne plus les confondre, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, on a un plateau télé avec quelqu'un qui sort une ânerie du genre... Météo France n'est pas foutu de nous donner la météo sur 5 jours. Comment ils peuvent prédire le climat sur 80 ans? C'est pas la même chose, climat, météo, on n'est pas sur les mêmes choses. Donc là, on a l'intro de ben, voilà ce qu'on peut entendre comme ânerie, si je puis dire. Et ensuite, on va rentrer dans le détail avec des sous-parties. Alors je m'en souviens pas, hein, il est sorti au mois de mars, je ne me souviens pas des sous-parties de ce chapitre-là. Mais il y en a à peu près 2-3. Et ensuite, on va conclure avec un petit mot de la fin qui synthétise ou qui donne des perspectives pour aller plus loin dans la réflexion peut-être philosophique ou sociétale. Qu'est-ce que ça implique maintenant qu'on a dit que la sécheresse allait être plus fréquente, qu'elles allaient être plus graves, qu'elles allaient concerner des territoires de plus en plus vastes? Eh bien, qu'est-ce que ça implique pour l'humain? Qu'est-ce que ça implique pour nous? Donc voilà, on a tenu à avoir un peu cette régularité entre les chapitres.
Je ne voudrais pas vous donner l'impression que je suis abusivement flatteur, mais... Après avoir pris connaissance de votre livre et de m'être plongé de nombreuses fois, je pense qu'en même temps, c'est un ouvrage de référence. Parce qu'il y a tellement d'informations scientifiques et chiffrées, qui permettent justement de battre en brèche les fake news, tout ce que l'on peut, les climato-sceptiques, etc. Il n'empêche que malgré cette technicité de votre ouvrage, vous n'avez pas oublié, j'en suis sûr, la dimension voulue de sa qualité pédagogique.
Ah non, bah c'était...
Et de son usage pédagogique.
C'était le but premier, oui. Oui. Et là, on bataille toujours un peu avec l'éducation nationale pour qu'il soit distribué dans toutes les écoles, à partir du collège, parce que c'est vrai qu'en dessous du collège, c'est peut-être un peu technique, même si c'est des dessins que certains qualifient d'enfantins, et je le prends pas mal, hein. Le dessin, c'est très subjectif. Et moi, j'ai essayé de faire au plus simple des dessins compréhensibles qui, oui, ont un style enfantin, mais qui permettent d'aller à l'essentiel, en fait. Donc bon, moi, ça me touche pas trop quand on me dit que mes dessins sont enfantins. Au contraire, ça veut dire qu'ils sont synthétiques et que j'ai atteint mon objectif. mais voilà, c'est malgré le style enfantin, effectivement, les couleurs un peu pastel, c'est trop tôt, je pense, en primaire.
Moi, j'ajouterais épuré.
C'est épuré, c'est épuré.
Voilà, pour la facilité d'accessibilité.
Oui, puis
voilà.
C'est un parti pris. C'était que, comme je disais tout à l'heure, il fallait attirer les gens vers quelque chose vers lequel ils ne seraient pas allés d'habitude.
Il ne faut pas ne pas rebuter.
Voilà, les couleurs vertes, pour parler d'environnement, excitent. On essaye une autre approche, et puis cette approche a fonctionné, visiblement.
Très bien. Et évidemment, à partir du moment où nous avons bien compris quel était l'objectif de votre ouvrage dans son contenu et dans sa qualité, l'environnement dans lequel aujourd'hui vous l'avez publié, vous l'avez déjà évoqué à diverses reprises au cours de notre entretien, c'est celui, c'est vrai quand même, d'une permanence de prise de position, d'attaque, de climato-sceptiques, de fake news, etc. Et c'était la conclusion de ce que disait Madame Delmotte en disant « Se pose alors la question de la manière dont il faut partager les connaissances scientifiques actuelles, progrès, limites, et de mobiliser celles-ci pour répondre aux idées reçues, mythes et à la désinformation sur les questions liées au climat. »
Tout à fait.
Je vous propose une petite pause et nous allons aborder cet aspect-là dans notre dernier tiers-temps de notre entretien.
Parfait.
Merci Claire.
Yo no soy marinero. Yo...
Vous écoutez les rendez-vous des colibris avec Michel Baillet.
Voilà, donc Claire, nous restons un instant sur ce que nous déclarait Madame Massot-Delmotte et que j'évoquais dans notre entretien précédent, à savoir la nécessité de se mobiliser, j'aime le terme mobilisation. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait une guerre contre les mythes, contre la désinformation et sur les idées reçues?
Oui, définitivement, oui. Au départ, tout est parti de là, ces idées reçues qui gênaient profondément les scientifiques du GIEC, qui pensaient que leur rapport tomberait mal dans ce climat-là.
Vous avez des exemples à nous donner un petit peu
de phrases climato-sceptiques qu'on entend beaucoup. Oui, le climat a toujours changé sur des échelles immenses. D'accord, oui, mais jamais aussi vite. Donc voilà, première réponse. La météo et le climat, comme je l'évoquais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les ours polaires qui prospèrent. C'est parce que nos méthodes de mesure de ces ours ont augmenté et sont bien meilleures aujourd'hui que dans les années 70. Donc oui, on en compte plus parce que maintenant, il y a des satellites dans le ciel qui nous aident à les compter. Alors qu'avant, c'était au petit bonheur la chance, je tombe sur un ours. Donc oui, on en recense plus, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a plus. Ils sont en profond déclin. Des questions. Le CO2, c'est bon pour les plantes puisqu'elles en ont besoin pour absorber. S'il n'y a plus de CO2, si on n'émet plus de CO2, les arbres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Que des choses comme ça qui paraissent un peu naïves, premier degré. Mais en fait, quand on creuse un peu, si on n'a pas les outils pour y répondre, très vite, on s'enlise un peu, on ne va pas trouver les bons arguments et on va alimenter encore plus le moulin de ces gens-là qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on fasse un faux pas.
Comment analysez-vous l'origine de ces comportements négatifs par rapport à ce que nous connaissons et ce qui, en fin de compte, est observable par tout un chacun?
Une profonde envie de ne rien changer, parce que c'est facile de rester dans sa zone de confort, de rester dans son confort, et faire des efforts, ça coûte, en fait. Donc si tout le monde se met à dire qu'il faut faire des efforts et que tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un changement climatique et qu'il va falloir changer nos habitudes pour essayer d'enrayer ou d'atténuer, parce que là, on ne pourra plus l'enrayer. C'est une grande machine qui est à pleine vitesse. Donc maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est la ralentir un peu pour que le choc soit moins dur. Mais il va falloir s'adapter. On ne pourra plus continuer de vivre comme on le fait aujourd'hui. Et donc, c'est plus facile d'essayer d'être dans le déni, parce qu'il y en a, hein, il y a beaucoup de climato-sceptiques, on les appelle les climato-dénialistes. C'est des gens qui préfèrent se mettre des œillères et se dire non, ça n'existe pas, en fait, tout ce qu'on nous raconte, c'est n'importe quoi. Les chercheurs, ils disent n'importe quoi, ils nous mentent, le gouvernement veut faire des économies, donc ils nous mentent. Enfin, voilà, il y a beaucoup de « ils nous mentent », c'est un argument qui revient en permanence, on nous ment.
Madame Massot-Delmotte revenait dans un interview, un entretien dans le journal Le Monde, il y a 3 semaines ou 1 mois de cela, et elle se référait à l'entretien très pénible qu'elle avait eu avec Allègre sur ces questions-là. Elle disait, j'ai vécu des moments très difficiles, parce qu'Allègre était un scientifique qui avait pignon sur rue, hein, ministre de l'Éducation nationale, etc., et puis ses ouvrages, son titre, etc. Voilà. Comment quelqu'un comme lui peut-il être un climato-sceptique?
Eh bien, tout simplement parce qu'il n'est pas climatologue. Voilà. Moi, je vais vous dire quelque chose de simple. Si demain, vous devez vous faire opérer du cœur, vous n'allez pas voir un glaciologue. Pourtant, il est docteur sur le papier. Il a un doctorat. C'est un docteur en glaciologie. Pourtant, vous n'allez pas voir cette personne-là. Donc, c'est pareil pour le climat. À partir du moment où on a des scientifiques en économie, des chercheurs, des docteurs en économie, en politique, des chercheurs en histoire, en cartographie, qui donnent leur opinion, parce que c'est ce que c'est. Il n'y a pas de recherche scientifique validée par la communauté scientifique derrière. Il n'y a rien, c'est une simple opinion. Et donc, on peut pas se baser sur ça. Si cette personne-là s'exprime avec son opinion, on ne peut pas dire que c'est juste. Et en fait, je vais expliquer à nos auditeurs comment fonctionne le processus de validation d'une information scientifique. Donc, les scientifiques vont faire des recherches basées soit sur des expériences, soit sur des modélisations à partir de modèles numériques pour faire tourner des prévisions, un peu comme les prévisions météo. Ils vont faire tourner des modèles pour voir ce que ça donne. en faisant jouer telle ou telle variable. Et donc, ils vont avoir des résultats à l'issue de ces expériences, qu'elles soient numériques ou réelles. Et donc, à partir de là, ils vont écrire des papiers scientifiques d'une dizaine de pages qui ont toujours la même structure, introduction, matériel et méthode, donc comment ils ont fait, discussion, donc à partir d'autres recherches scientifiques, comment est-ce qu'on inscrit cette recherche-là en particulier dans ce qui est déjà fait, baser nos résultats sur quelque chose qui a déjà été prouvé, etc., et une conclusion. Et ensuite, à partir de là, ce papier-là va être relu par des scientifiques de la même spécialité que ceux qui ont écrit le papier, dans des laboratoires internationaux, pardon. Et à partir de là, le papier est soit rejeté parce qu'il manque de preuves, parce qu'il manque de sources, parce qu'il manque de choses, soit il va être validé parce que les expériences ont été reproduites dans un autre laboratoire à l'étranger pour voir si on a les mêmes résultats. Et à partir de là, on peut valider un papier scientifique. Donc, il y a déjà un processus de validation qui est très lourd dans la recherche scientifique. Et c'est pour ça qu'on a des données scientifiques qui sont valables et qu'on dit que les scientifiques sont spécialistes de ce qu'ils font. C'est des gens qui travaillent depuis la fin de leurs études, pardon, sur la même thématique et qui vont être vraiment spécialistes de cette question-là. Donc, on ne peut pas remettre en question la parole de quelqu'un qui a fait des expériences, qui a prouvé, enfin, les résultats ont été prouvés par d'autres laboratoires, etc. Alors que quelqu'un qui donne son opinion comme ça, moi, je peux dire là, comme ça, sur ce plateau, que la Terre est plate. Ça n'engage que moi. C'est mon opinion, qui n'est pas mon opinion, mais je pourrais dire n'importe quoi, tout et son contraire. Ça n'est qu'une opinion. Et c'est là qu'il faut faire attention, quand on parle de climat comme de n'importe quelle information, parce que finalement, les fake news fonctionnent comme ça, c'est que c'est basé sur des opinions de personnes qui ne sont pas experts de ces questions-là. Bien et c'est là que c'est problématique.
Et la différence entre les scientifiques dont vous venez évoquer la rigueur du travail et les auteurs de fake news, c'est que le scientifique, à l'issue de ses travaux, lorsqu'il apporte une information, il apporte encore une question. Parce que pour lui, la découverte n'est jamais un point d'achèvement, mais simplement l'occasion de se poser une nouvelle question pour essayer d'aller plus loin.
Tout à fait, c'est une brique dans un mur, en fait. Pour moi, la connaissance scientifique, c'est exactement ce que c'est. C'est un mur qu'on construit, on ne sait pas quelle hauteur il va faire. La hauteur est indéterminée, et c'est bien.
Je crois qu'il y a l'un d'eux, j'avais lu, ce que je sais, c'est ce que je ne sais pas encore.
Voilà. Voilà. c'est certain.
Voilà, très bien. Parlez-nous un petit peu de l'accueil de votre livre. Qu'en est-il aujourd'hui de sa distribution, surtout, je pense, aux établissements scolaires, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Nous nous étions rencontrés lors de la présentation de votre ouvrage dans une librairie carpentrascienne que je ne vais pas citer, mais qui est un endroit privilégié pour pouvoir se cultiver. Donc, qu'en est-il aujourd'hui ?
Aujourd'hui, donc le livre est sorti début mars de l'an dernier et on a franchi avant Noël 40 000 exemplaires vendus.
Mes compliments.
Merci. Oui, c'était un peu une surprise parce que personne n'y croyait vraiment. C'était un format tellement... C'est un ovni, en fait, dans les librairies. Il ne peut pas être classé au rayon bande dessinée parce qu'il ne raconte pas d'histoire. C'est des faits scientifiques qui sont simplement... décrit, certes agrémenté de dessins, mais voilà. Il ne pouvait pas non plus être au rayon récit, puisque ce n'est pas écrit, c'est du texte et des images. Donc il se retrouve au rayon écologie, qui est généralement au fond, fin fond de certaines librairies, avec trois ouvrages qui se battent.
Entre un livre sur la chasse et l'autre sur la randonnée
bon,
pédestre.
Voilà, bon, il y en a de plus en plus. Heureusement, le rayon écologie prend de plus en plus d'ampleur avec des auteurs de plus en plus chouettes, j'ai envie de dire. Donc, voilà, c'était la maison d'édition, CNRS Édition, était assez frileux pour la publication de ce premier ouvrage. Et d'ailleurs, je le raconte à titre d'anecdote, ils avaient prévu seulement 1000 exemplaires tirés pour la première édition. Et en fait, les 1000 ont été achetés par le CNRS, par le président du CNRS, qui l'a distribué à tous les sénateurs, les députés et les candidats à l'élection présidentielle. Donc, ils l'ont tous eu entre les mains. Après, je ne sais pas s'ils l'ont lu. Je ne pense pas, mais pas tous. Mais voilà. Et donc là, ils ont renouvelé l'opération suite au remaniement du gouvernement et aux élections présidentielles passées. Ils ont redistribué à tous nos députés l'ouvrage.
Oui. Et pourtant, Tout reste difficile à faire. Je me réfère aux informations de ce matin. Il y a eu des débats autour des énergies renouvelables et des éoliennes qui n'ont pas été l'occasion, me semble-t-il, de féliciter les travaux de l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est un autre sujet. Je m'arrête immédiatement. Est-ce que vous avez eu l'occasion de participer à des événements autour de votre livre avec d'autres structures ?
Oui, des conférences grand public pour expliquer justement comme on vient de le faire, l'origine du projet, comment est-ce qu'il est arrivé là et quel accueil le public lui donne. Nous, on a de très bons retours, mais en même temps, les gens qui le lisent, nous, cet ouvrage-là n'est pas destiné aux climato-sceptiques, puisque ce sont des gens qui ne vont pas être convaincus avec un livre, puisqu'ils ont basé presque leur vie sur leurs opinions. Donc, ce n'est pas eux qu'on essaye de convaincre. Ce n'est pas non plus ceux qui ont une sensibilité pour l'environnement, parce que ce sont des gens déjà convaincus. Ce qu'on peut leur apporter, c'est des clés pour aller encore plus loin dans leur compréhension du sujet. Nous, ce qu'on voulait, enfin les personnes qu'on voulait vraiment toucher avec cet ouvrage, c'était un peu ce qu'on appelle le ventre mou en communication. Oui. Ce sont des gens qui ne savent pas vers qui se tourner, qui entendent des choses par-ci, des choses par-là, mais qui ne savent pas trancher, qui n'arrivent pas à avoir leur propre opinion, qui vont croire les climato-sceptiques très facilement, parce qu'ils ne vont pas avoir de prérequis pour... Alors, ce n'est pas du tout de leur faute, je ne les blâme pas, mais disons que c'est... Disons notre petite pierre à nous, à l'édifice, pour essayer de convaincre ces gens qu'il y a une réelle urgence et qu'il faut essayer de comprendre avant d'agir.
Voilà. Le dernier terme que vous venez d'employer est important, agir. C'est peut-être ceci, la découverte de votre livre, l'occasion d'une prise de conscience. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la nécessité d'aborder la sobriété dans nos comportements citoyens. Donc, qui passe par cette prise de conscience tellement évidente dans le quotidien sur des petits gestes. Mmh. Donc, votre livre donne du contenu aux efforts. Le terme ne correspond pas. C'est tellement une nécessité que chacun peut faire pour répondre à la situation présente.
Tout à fait. Pour moi, déjà, lire du contenu comme celui-ci, je ne dis pas ce livre-là en particulier, mais d'autres ressources comme ça, c'est déjà agir quelque part. Parce que conscientiser la chose, comprendre les tenants aboutissants de l'ampleur de ce problème-là, comprendre que tout est lié, que si on touche à ça, c'est ça qui va bouger de l'autre côté, c'est déjà, cette prise de conscience-là va déjà permettre d'ouvrir une porte sur quelque chose. Après, chacun s'y engage plus ou moins loin derrière cette porte, y va ou pas, mais en tout cas, c'est un premier pas pour moi... le fait d'agir, en fait.
Et il peut s'appuyer sur toutes les informations que vous lui apportez, c'est ce qui est essentiel. On peut parler d'avenir un petit peu ?
Oui.
Qu'en est-il aujourd'hui, vos projets, après la publication et la réalisation de ce livre ? Qu'est-ce que vous envisagez ?
Alors, il y a une très bonne nouvelle, c'est que le CNRS Édition, suite à l'accueil que le public a fait à ce livre, a décidé de faire une collection, tout comprendre ou presque, sur la biodiversité, c'est le prochain sur lequel je suis en train de travailler, les forêts, la physique quantique, l'archéologie, bref, toutes les sciences.
Vous avez confiance en vos lecteurs, si vous abordez la physique quantique, croyez-moi.
Oui, j'ai surtout confiance en mon co-auteur.
Et votre capacité à vulgariser cette notion-là quand même.
J'espère que j'y arriverai.
Et vous pouvez présenter la physique quantique sous forme de dessin.
Je vais essayer. C'est mon grand défi de cette année.
Écoutez, je pense que c'est un des privilèges de la jeunesse, la vôtre, de vouloir soulever de tels défis. Et je vous souhaite beaucoup de réussite dans la suite de vos activités, Claire. Je vous remercie infiniment.
Merci à vous.
D'avoir répondu à notre rendez-vous. C'était passionnant. Je pense que nos auditeurs partageront, comme nous venons de le faire ensemble, tout l'intérêt que présente votre démarche et que nous aurons l'occasion de nous revoir pour mesurer ensemble les petits progrès, comme dirait notre colibri, la petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie que les uns et les autres nous essayons d'apporter pour répondre à cet énorme enjeu que sont les conséquences du réchauffement climatique. Et je ne pense pas qu'il s'agisse de sauver la Terre, comme bien trop souvent on le répète, mais c'est l'humanité qui est en jeu.
Exactement, la vie a toujours su s'adapter, l'homme un peu moins.
Merci Claire,
merci
très bientôt.
À
et merci à Bruno pour la prise de son, de nous avoir accompagnés et de s'être enrichi comme nous de tout ce que vous venez de nous apporter.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Michel Baillet vous a présenté les rendez-vous des colibris.